Vous écoutez RTL.
Jacques Pradel sur RTL, l'heure du crime.
Et bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver donc pour une nouvelle édition de l'heure du crime avec à la une ce soir, on en parlait il y a quelques instants avant le flash avec Christophe Paco, un mystère de la 5ème République, un meurtre jamais élucidé depuis 40 ans. Dans la nuit du 31 janvier 1980, Joseph Fontanet, une figure de la démocratie chrétienne de la 5ème République, est abattu à Paris d'une balle de 11.43, l'arme favorite de la pègre. Il descendait de sa voiture qu'il venait de garer devant son domicile du boulevard Émile Augier dans le 16e arrondissement de Paris vers minuit et demi. Pas de témoin direct du drame, pas de piste crédible pour la police. On sait simplement que cet ancien ministre sous la présidence de Georges Pompidou qui s'était retiré de la vie politique depuis plusieurs années, venait de raccompagner l'un de ses collaborateurs avant de se garer devant chez lui. Seule certitude, le tireur était à bord d'une voiture qui a aussitôt pris la fuite sans pouvoir être interceptée par la police. Alors les enquêteurs vont écarter très rapidement la revendication d'un obscur groupuscule, les brigades autonomes révolutionnaires qui revendiquaient donc la mort de Joseph Fontanet. Ce groupuscule avait fourni des précisions qui ne cadraient pas, disons, avec les constatations matérielles de la police sur la scène de crime. Alors, vengeance privée, contrat mafieux, mais pour quel mobile ? Ou encore, mal d'homme, c'est-à-dire erreur sur la personne, peut-être aussi simple malchance, la malchance d'avoir fait la rencontre cette nuit-là d'un tireur fou qui voulait réaliser un crime gratuit. Aucune autre hypothèse n'a jamais pu expliquer jusqu'à présent qui pouvait en vouloir à cet homme à l'intégrité unanimement reconnue à son époque. Nous allons revenir sur l'ensemble de ce dossier avec l'un de ses meilleurs connaisseurs, mon invité, le journaliste Dominique Labarrière.
20h, 21h,
Jacques Pradel sur RTL,
l'heure du crime.
Et rebonsoir donc à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous de l'heure du crime sur RTL du lundi au jeudi entre 20h et 21h. Une émission un petit peu plus courte que d'habitude ce soir puisque à partir de 20h45, Bichente, Elisa Razou et Sylvain Charlet vont nous faire vivre le match Dortmund-PSG pour la 8e de finale aller de la Ligue des Champions. Mais nous n'en sommes pas là. D'ici là, nous allons nous poser une question. Qui a tué Joseph Fontanet? C'était dans la nuit du 31 janvier 1980, cet homme intègre, en tout cas reconnu comme tel par l'ensemble de la société française, ancien ministre de Georges Pompidou, s'est fait abattre cette nuit-là d'une balle de 11.43, l'arme, je le disais tout à l'heure, de la pègre, par un tireur qui était à bord d'une voiture. Et nous allons, avec mon invité, revenir sur l'ensemble de ce dossier parce que les policiers ont privilégié l'hypothèse du crime gratuit ou du crime de hasard ou de l'erreur sur la personne, mais il y a peut-être quand même d'autres réponses à donner maintenant 40 ans après les faits. C'est ce que nous allons voir avec Dominique Labarrière ce soir. Bonsoir.
Bonsoir Jacques Pradel.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Alors, merci de m'avoir invité.
Bon, vous êtes journaliste, vous avez il y a quelques années consacré un livre que vous aviez intitulé « Quand la politique tue », où il n'y avait pas que l'histoire de Joseph Fontanet, mais il y a eu pas mal de morts d'ailleurs sous la 5ème République. On oublie que Joseph Fontanet a été abattu à peine 3 mois après la découverte du suicide supposé de Robert Boulin, bon, etc. Mais, et alors, je vous remercie d'autant plus que ce n'est pas évidemment votre actualité, mais c'est un livre qui remonte, que vous aviez publié « Quand la politique tue » en 2014 à la table ronde. Alors, un petit mot quand même de votre actualité, puisque un livre succède à d'autres livres dans la vie d'un auteur. Vous venez de publier aux éditions Guy Trédaniel « La mythologie au féminin, aux sources du sexisme ». Alors on peut se dire qu'on est peut-être loin du crime, on n'est peut-être pas loin du féminicide, ou en tout cas de ce qui fait que nous vivons actuellement une période de notre société où les femmes sont plus souvent victimes qu'auteurs. Hein.
Elles sont plus souvent victimes. Le féminicide, c'est quoi ? C'est l'appropriation, c'est le sentiment de propriété des mâles, nous, mon cher Jacques, c'est-à-dire le sexisme, c'est ça. Et j'ai voulu montrer dans ce livre que les préjugés sexistes remontaient à la mythologie. C'est-à-dire que quand on lit la mythologie sous un certain angle, on s'aperçoit que ce dont pâtissent nos compagnes, nos femmes, nos mamans, nos belles-mères éventuellement, c'est déjà présent. Et qu'on entretient l'idée que le mal domine, que le mal s'approprie et que la femme ne dispose jamais finalement d'elle-même. Elle est ou otage ou monnaie d'échange, mais elle n'est jamais totalement elle-même.
Donc un livre absolument passionnant à lire si on s'intéresse aux phénomènes de société, la mythologie au féminin qui vient de paraître donc aux éditions Guy Trédaniel. Alors on va maintenant en venir à cette affaire Joseph Fontanet parce que je disais tout à l'heure vous êtes un des meilleurs connaisseurs de ce dossier et vous avez peut-être d'ailleurs des révélations à nous faire. On verra ça dans un petit instant. D'abord, je vous propose d'entendre un premier document RTL qui remonte au tout petit matin du 1er février 1980. Joseph Fontanet a été abattu vers minuit et demi cette nuit-là. Et Alain Hamon, journaliste spécialiste des faits divers dans la rédaction d'RTL, arrive sur les lieux du crime à peu près en même temps que les policiers. Et au petit matin, dans RTL Matin, il révèle les premières informations qu'il a pu recueillir sur place dans la nuit.
D'après les premiers renseignements recueillis sur place quand nous sommes arrivés avec les policiers de la brigade criminelle, eh bien, il n'y a pas de témoins. Et c'est assez difficile, donc, en l'absence de témoins, de savoir ce qui s'est réellement passé. Les seuls témoins qui ont vu quelque chose ont d'abord été des témoins auditifs. Ils ont entendu des coups de feu. Et lorsqu'ils sont approchés du trottoir où gisait Joseph Fontanet atteint par ces deux projectiles, eh bien, le ou les agresseurs s'étaient déjà enfuis. Il était 0h30 environ, Joseph Fontanet avait tenu une conférence assez tard, et il remontait du matériel dans son appartement, et c'est en faisant le dernier voyage, en s'approchant de sa voiture, qu'il a été agressé. On ne sait pas si les agresseurs étaient en voiture ou s'ils l'attendaient sur le trottoir. S'ils l'attendaient sur le trottoir, peut-être a-t-il vu le ou les tireurs, et ça, bien sûr, les policiers de la brigade criminelle attendent que Joseph Fontanet soit définitivement sauvé à l'hôpital Laennec pour lui poser éventuellement les questions. Une voiture de police qui patrouillait dans le quartier a pris en chasse deux hommes armés dans une voiture, mais en même temps, dans le quartier du Trocadéro, il y avait eu une agression dans un hôtel. Alors on ne sait pas très bien si ce sont les agresseurs de M. Fontanet qui ont été pris en chasse à ce moment-là ou les gens qui ont attaqué le veilleur de nuit de cet hôtel. Et de toute façon, cette voiture avec ces deux personnes armées n'a jamais été rattrapée. Alors, pour le moment, eh bien, comme le disait un enquêteur de la brigade criminelle que j'ai rencontré sur place vers 2h moins le quart ce matin, eh bien, c'est la pénombre la plus complète.
Malheureusement, Joseph Fontanet succombera à ses blessures le lendemain, donc le 1er février, dans cet hôpital parisien. Il avait 59 ans. Alors, d'un mot, on va prendre le temps après Dominique Labarrière de raconter en détail à la fois l'enquête, mais qui était assez rapide parce qu'il n'y avait pas de témoins directs, etc. Les hypothèses aussi des policiers, les circonstances, le contexte de tout cela. Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'abord ? Parce que ce qui a prédominé, et ce qui prédomine encore 40 ans après, c'est peut-être un crime de hasard, peut-être un crime gratuit. La malchance.
C'est le flou, et en entendant notre confrère Hamon là tout de suite, dès le premier matin, c'est le flou, on ne sait rien. Il y a des témoins auditifs qui ont peut-être entendu, peut-être, voilà, ceci, une voiture qui a filé dans la nuit, des hommes armés, peut-être armés, qu'on n'a jamais retrouvés. Ouais. Tout est flou. Et ce qui m'intéresse dans cette affaire, c'est qu'elle est extraordinairement énigmatique. Parce que l'homme est énigmatique. Vous l'avez rappelé, c'est un homme d'une rectitude absolument formidable. Ce n'est pas un comique, hein, Joseph Fontanet. C'est la droiture en politique, c'est la démocratie chrétienne.
Un des fondateurs du MRP, qui était grande rigueur morale.
Grande rigueur morale. Et c'est un homme dont on s'attendrait à le voir mourir à 85 ans, en bon père de famille, en bon chrétien autour de lui, mais pas mourir sur une bordure de trottoir avec une balle de 11.43. Dans le corps, enfin voilà. Et ça, c'est très inattendu. Un homme qui est retiré de la politique à ce moment-là depuis 6 ans. Et il y a une chose qui est très importante que vous avez dit tout à l'heure, c'est que ça n'intervient que 3 mois après la mort de son ami Robert Boulin.
Voilà. Alors, une pause tout de suite, et puis nous revenons sur à la fois sur les détails de l'enquête, mais surtout sur votre enquête à propos de ce grand mystère.
L'heure du crime sur RTL.
Jacques Pradel sur RTL.
Qui a tué Joseph Fontanet? C'est une question qu'on se pose depuis 40 ans. Dominique Labarrière, l'invité de l'heure du crime ce soir, avait déjà posé cette question dans un livre, donc il y a quelques années. Mais vous n'étiez pas loin de, j'allais dire, de l'hypothèse qui avait été retenue par tout le monde à l'époque, hein, puisque je crois que vous aviez titré « Maldonne ou malchance ».
Oui, c'est ça.
Bon,
oui,
là, vous êtes revenu sur
j'ai
cette...
Travaillé, Jacques,
j'ai c'est très bien, bravo.
Et,
merci
et
beaucoup.
Il y a quelque chose qui, moi, me séduit, enfin... Ouais. Voilà.
Alors, il faut quand même qu'on redonne un petit peu de corps et de chair à ce personnage. On a dit, bon, pendant la guerre, c'est un homme qui va choisir la résistance et qui va finir par partir à Alger. Oui. Il va s'engager dans les troupes du maréchal Delattre, enfin, qui n'est pas maréchal à l'époque, mais le général Delattre de Tessigny.
Oui, oui.
Bon,
oui.
il va faire une guerre glorieuse.
Oui,
finalement.
Oui, ouais.
Il va participer, après la guerre, donc, au renouveau de la démocratie chrétienne en France, oui. Avec le MRP,
oui.
Et puis il va être plusieurs fois ministre de Georges Pompidou.
Oui, oui.
Il a été ministre de la Santé notamment, mais aussi des Affaires sociales. Enfin, oui. Bon, bref, c'est un homme qui a beaucoup compté. Et puis, comme vous le disiez, quelques années avant sa mort, il a 59 ans, rappelons-le, il arrête la politique, oui. Et il veut fonder un journal,
oui.
D'abord, hein, parce qu'il va devenir aussi un spécialiste informatique. D'ailleurs, quand il a été, la nuit où il était tué, la veille au soir, il était allé faire une conférence devant tout un aéropage d'élus de la République pour dire pourquoi l'informatique était très importante dans la gestion des municipalités, voilà. Voire des conseils généraux, etc.
Voilà.
Il se présentait comme un spécialiste de l'informatique, qu'il était d'ailleurs.
C'est, hein. C'est un HEC ouais. Qui est un homme de technique et d'informatique. Il est très en avance et il veut promouvoir l'informatique auprès des collectivités territoriales.
Voilà.
Voilà. Et donc, il fait une tournée et le soir, là, il rentre et il descend son matériel et c'est à ce moment-là que le drame se produit. Du drame, qu'est-ce qu'on sait avec certitude? C'est qu'il a murmuré deux mots, voiture, tirée. Et les enquêteurs, si exceptionnels soient-ils, ils doivent se débrouiller avec ça. Donc on est parti avec rien, comme le disait notre confrère Hamon tout à l'heure, il n'y a rien. Il n'y a rien, absolument rien. Rien, et encore une fois, je me répète, la cible est totalement inattendue. Il n'est plus dans la politique, il est avec sa petite Renault 5, il roule en Renault 5.
Oui,
un ancien ministre. Il a eu l'honnêteté de partir de la politique, de renoncer à tous ses mandats à l'élection de Valéry Giscard d'Estaing, parce qu'il soutenait Jacques Chaban-Delmas,
ouais.
Comme son ami Robert Boulin, mais Robert Boulin, lui, bifurque, davantage politicien peut-être que lui, bifurque, oui. Mais il est complètement sorti de la politique. Ah. Et alors cet homme-là, je me suis beaucoup intéressé à l'aventure journalistique de
ouais, il avait fondé un journal qu'il avait appelé J'informe,
oui.
Parce qu'il considérait que le Monde était à peu près à l'époque le seul journal, disons, de haut de gamme, quoi. Mais que ce journal était de gauche.
Voilà,
et
voilà.
Donc, lui, il était de droite, la droite voilà. Chrétienne,
à
traditionnelle.
La droite chrétienne,
bon. Et donc, il s'était dit, je fonde ce journal J'informe, on va faire un contre poids au Monde. Ça n'a pas marché, d'ailleurs.
Voilà, alors c'est ça, ça n'a pas marché. Alors, il n'a pas l'idée tout seul, c'est ça que j'ai découvert. Et alors, ce qui m'a beaucoup intrigué dans cette histoire de J'informe, comme vous le dites très bien Jacques Pradel, nous sommes en 77. Il n'est plus dans la politique.
Mmh.
Il n'est plus dans la politique. Il est en dehors. Et il y a une idée qui germe, c'est de faire un journal qui soit le concurrent. Quelle ambition,
oui, bien
sûr. Du Monde, le journal de référence. Et le poids de la presse écrite à l'époque... C'est pas ce qu'il est aujourd'hui.
Bien
c'est
sûr.
Beaucoup plus. Alors, on veut faire le concurrent du Monde, rendez-vous compte.
Ouais.
Et alors, il y a des investisseurs, il y a de l'argent. On sait qu'il y a de l'argent du SAC, du service d'action civique,
ouais.
Qui serait le reliquat du deuxième tour de la campagne de Chaban-Delmas. Mais il n'y a pas que ça. Et moi, ce qui m'a intrigué, et ça va vous intriguer, Jacques, j'en suis sûr,
ouais.
C'est que quand on a l'ambition de faire un journal, lui et l'équipe, les gens qui sont autour de lui, qui ont pris cet homme-là parce qu'il est honnête, c'est pas du tout un profil de journaliste. Fontanet, ça m'a surpris moi à l'époque qu'il s'intéresse à la presse.
Oui.
C'est un homme d'informatique, c'est un homme, voilà, il n'est pas, c'est pas un homme de presse, il n'a jamais été journaliste. C'est
oui.
Pas Citizen Kane.
Oui, oui.
Et on veut concurrencer Le Monde et on sort 77 numéros. C'est-à-dire qu'au bout de 2 mois et 20 jours, on met la clé sous la porte.
Oui.
C'est très extraordinaire. Quand un investisseur de presse, un industriel qui investit dans la presse, oui. Se donne 1 an, 2 ans, 3 ans.
On est au pot quand ça va
on
mal.
Est au pot. Et puis on attend surtout le début oui. De la pré-campagne des élections de 78, dont chacun sait qu'elles vont être très tendues.
Oui.
Donc, génératrice de bons papiers pour la presse. Là, ça m'a intrigué. 2 mois et 20 jours après, on ferme boutique quand on a voulu concurrencer Le Monde. Mmh. Alors, qu'est-ce que c'est, j'informe, c'est une vraie entreprise de presse, une lessiveuse.
D'accord.
Moi, je pense qu'on a beaucoup blanchi à ce moment-là. On a mis des capitaux dans les bâtiments, mmh. dans le papier, ouais. dans des cabinets de conseil. Il y a une succession de cabinets ouais. de conseil dans cette affaire extraordinaire. Ouais. Et donc, on a beaucoup blanchi probablement, à l'insu de Fontanet. On a pris le plus honnête, le plus droit là-dedans, le moins journaliste possible.
Un montage
possible.
Qui pouvait très bien se faire sans que le principal intéressé soit au courant.
Il n'est pas au courant du tout.
Bien sûr.
Et oui. puis quand on a bien blanchi les trucs, au bout de mois et tout, on dit c'est fini, on arrête.
D'accord.
C'est on arrête.
Mais alors, où serait le mobile de l'assassinat ?
Alors attendez, c'est que tous les ministères sont invités à prendre des milliers d'abonnements. Cet argent qui vient de on ne sait où, donc c'est tout, pardon, ouais. et qui se trouve mis au pot, ouais. il y a quelqu'un qui sait d'où il vient. Parce qu'il est aux finances à ce moment-là, dans les mois où ça se produit, c'est Robert Boulin. C'est l'ami de Fontanet, centriste comme lui, catholique comme ouais. lui, ouais. ils sont ouais. centristes. Et avec Robert Boulin, les deux affaires, à mon avis, sont liées.
Alors, vous allez nous en dire plus dans un petit instant, parce que ça, c'est vraiment nouveau dans ce dossier, parce que on va en venir à l'enquête du commissaire Leclerc, qui était quand même une icône du 36 Quai des Orfèvres, qui a bien travaillé aussi, mais pas du tout dans cette direction-là. Oui. Et on va voir ensemble aussi quelles ont été les hypothèses de la police pendant leur enquête.
Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
La mort de Joseph Fontanet, c'est un coup de théâtre, un coup de tonnerre même, quand même dans la vie de la société française, parce que on l'a dit, on en reparlera, il y a eu la mort de Robert Boulin, mais il y a eu Pierre Goldman, il y a eu un certain nombre de gens qui ont été assassinés dans Paris au 1143,
oui.
le fameux calibre des malfrats et de la pègre. Mais en creusant la personnalité de Joseph Fontanet, on ne trouve absolument rien qui puisse laisser supposer des malversations. On s'est quand même posé la question, et ça on y reviendra tout à l'heure quand on reverra ensemble l'enquête du commissaire Marcel Leclerc, mmh. c'est que il y avait quelque chose qui tournait autour d'un casino à Annecy où la municipalité d'Annecy, qui savait que le casino était menacé de fermeture parce qu'il y avait eu, alors pour le coup, là des vrais malfrats qui avaient fraudé, mmh. Savait que ce casino menaçait d'être fermé et on avait décidé de prendre justement les conseils de Joseph Fontanet, savoir ce qu'on pouvait faire. Mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, là, je voudrais qu'on entende un autre document RTL, parce que l'enquête, comme vous l'avez dit, les policiers n'ont rien à se mettre sous la dent, que des hypothèses, que des questions sans réponse. Et petit à petit, on va en arriver à retenir comme la plus probable l'hypothèse du crime gratuit. Et c'est à ce moment-là, nous sommes le lundi 4 février, c'est-à-dire très peu de temps après l'événement, 3 jours d'enquête, hein, en fait, Jacques Chaput sur RTL évoque les dernières déclarations de la femme de Joseph Fontanet et il revient également sur les circonstances de l'assassinat.
Madame Fontanet, cet après-midi, a reçu quelques journalistes. Elle a précisé que, d'après les policiers, il s'agirait bien d'un crime fortuit. D'ailleurs, précise-t-elle, 2 heures avant l'assassinat de mon mari, un autre automobiliste a été agressé dans les mêmes conditions. Les agresseurs ont tiré sans savoir sur qui et probablement pas non plus pourquoi. Mais madame, vous ne pensez pas à une probable vengeance ? C'est hors de question, dit-elle. On aurait beaucoup de mal à inventer quoi que ce soit sur mon mari. Il était irréprochable. Il n'empêche que les policiers continuent à arpenter le chemin emprunté 10 minutes avant l'attentat par l'ex-ministre de la rue Violet, où il déposa son collaborateur, à la rue Émile Augier, où se trouve son domicile. Au cours de son trajet, M. Fontanet aurait pu avoir un accrochage avec d'autres automobilistes, des automobilistes irascibles, qui, fous de colère, l'auraient rattrapé et abattu devant son domicile. Bien sûr, il y a des fous, mais en existe-t-il de ce calibre-là ?
Alors, il y aura, on parlera plus tard d'une bande de malfrats, la bande à pupuches.
La bande à pupuches.
Qui a occupé quand même les gens du Quai des Orfèvres pendant pas mal de temps. Il faut dire que la bande à pupuches, c'était quand même des vrais voyous. Ouais, ils avaient des armes, notamment des 11 virgules, comme disent les spécialistes. Et qui avaient utilisé d'ailleurs un 11-43. On a essayé de voir si c'était pas la même arme qui avait tiré, etc. Mais là, je reviens à ce que vous révélez, parce que c'est une véritable révélation née des questions que vous êtes posées sur cette affaire en faisant le lien finalement entre la mort de Robert Boulin, suicide supposé, mais qui a vraiment, enfin, hypothèse qui a quand même de plus en plus de plomb dans l'aile au fur et à mesure que le temps passe, et la mort de Joseph Fontanet, ce qui ne met pas en cause son intégrité.
Du tout. Il faut toujours le rappeler, c'est-à-dire que l'enquête est très difficile. Pourquoi ? Parce que les enquêteurs vont évidemment fouiller dans le passé de Joseph Fontanet. Ils ne trouvent rien. Il n'y a pas une maîtresse, il n'y a pas une dette, il n'y a rien du tout. C'est l'homme clean, le plus clean qui puisse exister, le plus propre qui puisse exister. Donc c'est très difficile pour les policiers d'enquêter sur quelqu'un, sur un ange. Voilà. Donc ils vont aller vers des hypothèses, une ressemblance avec un général iranien, enfin voilà, la bande à pupus qui fait des chevauchés, qui tire des coups de fusil dans les voitures et tout ça. Mais on ne va pas trouver d'aspérité. Sauf que Robert Boulin meurt, quelles que soient les circonstances, on croit de moins en moins au suicide.
Oui.
Enfin, Et trois mois avant. Et dans ces trois mois, qu'est-ce qui se passe ? C'est-à-dire, il y a d'abord eu la thèse du suicide, dont personne ne doutait. Et puis, on commence à parler. Qui commence à parler ? Le sénateur Marcilassi, autre ami de Joseph Fontanet, centriste lui aussi, qui commence à dire, mais le suicide, c'est pas possible. Et dans ces trois mois, La thèse du suicide commence à s'écorner, commence à s'effriter.
Et puis des gaullistes historiques aussi.
Oui, des gaullistes historiques qui commencent à...
L'amiral Sanguinetti, bien sûr.
Et auprès de qui Robert Boulin aurait-il pu se confier ? À cette antenne même, à RTL, il dit quelque temps avant sa mort, je vais parler. En d'autres termes, il dit je vais parler. À qui peut-il se confier ? Sinon à Joseph Fontanet, à son ami. C'est-à-dire que Joseph Fontanet... Les gens qui ont eu intérêt à ce que Robert Boulin ne parle pas ont le même intérêt à ce que Joseph Fontanet ne parle pas. C'est-à-dire qu'il n'a pas de culpabilité, de responsabilité, lui, mais il doit savoir des choses. Je pense que Robert Boulin lui a expliqué, Robert Boulin qui était encore une fois aux finances quand il y a eu le coup de J'informe, cette chose...
Abracadabrantesque,
on veut concurrencer le monde et en deux mois et demi tout s'arrête. Eh bien, je pense qu'il a expliqué comment ça avait été financé, qui avait l'argent du sac. Et ce sont les mêmes qui sont. C'est toujours Perfide qui est garde des Sceaux, c'est toujours M. Pasqua, c'est toujours les mêmes. Ouais. C'est toujours les mêmes. Et ce n'est pas faire insulte au commissaire Leclerc de rappeler quand même qu'il est plutôt un homme de droite, que la gauche l'a mis de côté, qu'à un moment donné, il s'est retrouvé directeur de cabinet de Charles Pasqua à Neuilly. Enfin, la piste politique n'a jamais été fouillée. Mais elle n'a jamais été fouillée. À juste titre, il faut dédouaner le commissaire Leclerc. Parce qu'il n'est plus dans la politique et on ne trouve aucune entourloupe chez lui.
Le journal a fermé en 77. Hein, donc
deux mois et demi après le début.
78. Voilà, donc là, on est en 80. Donc c'est plutôt vraiment le lien que vous faites et vous parlez de J'informe en disant c'est certainement ça a pu être une sorte de lessiveuse pour blanchir de l'argent sale qui a eu des emplois politiques. Mais au moment où Fontanet est assassiné, on n'est plus dans ce cas-là.
On n'est plus dans cette chose-là.
En revanche, est-ce que Robert Boulin n'aurait pas fait confidence à Joseph Fontanet, par exemple, des dossiers qu'il aurait préparés, lui, il était dans une affaire immobilière, lui reprochait d'avoir acheté un terrain dans le sud de la France, etc. Et il avait dit, effectivement, ici même, d'ailleurs, et dans la presse en général, je n'ai pas dit mon dernier mot, et on sait aussi par des témoignages qu'il avait certainement récupéré à son ministère, dans un coffre, un certain nombre de dossiers.
Ah ben, le matin de sa mort, il est parti de son ministère avec des dossiers. Son chauffeur l'a aidé à emmener des paquets de dossiers dans sa voiture. On le sait. Et quand moi, je l'ai entendu à cette antenne dire « je vais parler », j'ai dit « là, c'est son arrêt de mort. Il signe son arrêt de mort. Il ne faut pas dire qu'on va parler. » Et donc, il est mort. Mais entre-temps, il s'est nécessairement confié à quelqu'un. et qui a, en qui avoir confiance sinon à l'intègre, au pur Joseph Fontanet, qui n'est plus dans le sérail politique. Donc c'est le seul auquel il peut avoir parlé sur, sur l'affaire de J'informe, mais sur d'autres choses, puisqu'il part avec beaucoup de dossiers, Boulin,
oui,
beaucoup de dossiers qu'on n'a jamais
dire
trouvé.
Que Robert Boulin, l'une des hypothèses qui a été émise sur l'élimination, s'il s'agit d'un acte criminel de Robert Boulin, c'est qu'il était pressenti pour être le prochain Premier ministre de la France.
Oui, alors.
Aussi. Bon. Alors, je vous interromps là parce que le temps passe très vite. Une pause et on se retrouve pour la dernière partie, malheureusement, ce soir de cette émission.
L'heure du crime sur RTL. L'heure du crime sur RTL.
Joseph Fontanet aurait-il pu être éliminé parce qu'il détentait, parce qu'il détenait, pardonnez-moi, un certain nombre de confidences que lui aurait faites Robert Boulin sur les dessous, finalement, de ceux qui, enfin, du combat qui était aussi destiné à l'éliminer politiquement, hein, puisque le fait qu'il soit prévu, vraisemblablement, de le nommer prochain Premier ministre, ne plaisait pas à tout le monde, et notamment dans la vieille garde gaulliste. Hein, c'était, là, on est à l'intérieur de l'histoire intime de la droite française. Bon. Alors, c'est une question, mais en fait, on ajoute une hypothèse aux hypothèses, parce que 40 ans après, est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin, Dominique Labarrière ?
On peut
ou en savoir plus ?
On ne peut pas aller plus loin, on peut toujours aller plus loin dans l'analyse, dans le chemin de la cohérence. C'est-à-dire, c'est probablement la seule hypothèse cohérente avec l'arme, par exemple, l'utilisation de l'arme, le 11-43, avec le moment, c'est-à-dire que, comme vous l'avez très bien raconté, il passe deux fois à son domicile, donc il y a le temps de repérer, d'attendre qu'il soit seul.
Alors, cela dit, Marcel, je vous interromps, Marcel Leclerc, j'ai reconsulté beaucoup de presse de l'époque, etc., et les archives sonores de la rédaction d'RTL. Apparemment, l'équipe du Quai des Orfèvres, de la CRIM, aurait considéré que, comme il n'y avait eu qu'un coup de feu, parce que je crois qu'au début, Alain Hamon parle de deux coups de feu, c'est ce que doivent penser les enquêteurs, il n'en sait pas plus, il est arrivé une heure avant sur place, mais vraisemblablement, il n'y a eu qu'un tir. Et pour les spécialistes du banditisme, parce que faut pas oublier que Marcel Leclerc était l'ancien chef de l'anti-gang également, disent, quand il y a un contrat, quand on veut tuer quelqu'un, on tire deux fois.
S'arrête et on finit le job.
Voilà, on finit le job. Alors ça ne collait pas avec... mais après tout...
Encore faut-il que la voiture s'arrête et on ne le sait pas.
Alors, on ne sait pas si la voiture s'est arrêtée,
C'est cette bon sens de voiture, c'est-à-dire on n'a rien. On a juste voiture tirée et des gens qui sont en train de dîner. La propre sœur de Valérie Giscard d'Estaing, qui est en train de dîner dans cet immeuble-là avec son mari, et ils entendent le ou les coups de feu. Oui. La première déclaration, c'est deux coups de feu.
Oui, voilà, exactement.
Mais après, on retient qu'un seul coup de feu, parce qu'on n'a pas trouvé qu'une seule douille balle dans le corps.
Il n'y a pas de douille sur le trottoir.
Mais les professionnels ramassent leurs douilles, paraît-il. Enfin, voilà, c'est très, très compliqué, si vous voulez.
Mais, vous dites, on peut émettre cette hypothèse, essayer de faire entrer une sorte de cohérence dans la réflexion. On n'ira jamais plus loin. On ne saura jamais qui a tué vraiment.
Quelqu'un parlera. Vous savez, Jacques Pradel, je crois en l'immanence sur le lit de mort, les gens parlent. je veux croire ça. Moi, je suis parti de cette guignolerie qui est J'informe. Ça peut pas être autre chose qu'une.
Vous, ça tient pas la route de lancer un journal avec beaucoup d'argent, quand même.
Des millions.
Ça coûte très cher. Et d'arrêter au bout de 77 jours, c'est-à-dire.
77 numéros, c'est deux mois et 20 jours. Ça n'a pas de sens. Au moment où on va entrer, pour qu'il vive, cet enfant, pour qu'il commence à marcher, il faut beaucoup plus de temps que ça. À mon avis. Et là-dessus, on sait de façon formelle que dans J'informe, il y a eu de l'argent du sac. Ça, on le sait.
On le sait.
L'affaire, j'invente rien. Là, alors, c'était, comme je l'ai dit tout à l'heure, si Chaban avait été au deuxième tour, il y avait de l'argent prévu pour Chaban. On finançait les choses différemment d'aujourd'hui. Mais en fait, il y a eu d'autres choses qui ont été mises là-dedans. Et une fois qu'on a fini de lessiver et de blanchir, on a fermé la boutique. C'est un des éléments. Et je pense, c'est bien sûr, c'est des hypothèses, mais je pense que Robert Boulin a eu un confident. Il n'a pas porté ça tout seul, son état psychologique. On a travaillé ensemble sur l'affaire Boulanger,
oui,
il y a quelques semaines, ici même. Il a eu un confident. Alors, moi, je pense qu'il a pu avoir comme confident Fontanet, le chrétien Fontanet, l'homme de droiture, le silencieux, le taiseux Fontanet, et qu'il s'en soit remis à lui. Et on s'est affolé quelque part. À un moment donné, on s'est affolé. Et dans l'affolement... Eh ben, on liquide. Et c'est facile de savoir où Fontanet était. Il avait une réunion publique ce jour-là. Il y avait un itinéraire qui était connu. Oui. On savait qu'il allait raccompagner son collaborateur à son domicile, qu'il allait revenir dans une avenue qui est à peu près déserte à cette heure-là.
Absolument.
Donc, faire un carton, c'était pas très difficile.
Ouais. Alors, juste pour satisfaire la curiosité, il nous reste 3 minutes. Pour satisfaire la curiosité de ceux qui écoutent cette émission, un mot quand même sur l'histoire du chat. On a parlé d'un général dissident qui se battait contre le chat d'Iran. Alors la raison pour laquelle on a évoqué cette hypothèse, c'était une erreur sur la personne, parce que ce fameux général iranien ressemblait, paraît-il, beaucoup à Joseph Fontanet. Ouais, donc on aurait voulu tuer le général iranien, et en fait on aurait tué le malheureux Fontanet.
Ouais. C'est Roménie, parce que c'était un allié du chat, le général, il était réfugié
en France. C'est moi qui ai transformé l'histoire.
C'est Roménie qui le je me suis renseigné, ce général iranien ne circulait pas en Renault 5. Hein.
Oui. Voilà, bon,
et jamais seul. Oui. Voilà.
Donc,
c'est pas facile.
Bon, donc ça tient vraiment,
non,
vraiment
ça pas.
Les brigades, je ne sais quoi, effectivement.
Mais ça, c'est les couleurs locales de l'époque.
Oui, voilà. Bon. Mais c'est vrai qu'il y avait quand même eu Aldo Moro. Il y avait aussi un terrorisme à l'échelle européenne. Donc, on a pensé à un attentat.
Quelques années plus tôt, il y avait Jean de Breuil.
Voilà, bon. Il restait la bande à pupus. Alors, la bande à pupus, parce que la bande à pupus, il y avait quand même des éléments concrets. C'est des gens que la police connaissait, qui faisaient des cartons dans les rues de Paris quand ils avaient bu un coup de trop, mais qui avaient fait des cartons avec un 11, a saisi, qu'on a expertisé, qu'on a même envoyé en Allemagne pour faire une expertise balistique.
Voilà.
Bon. Et il y a eu un certain Stéphane, je termine parce que je vois que l'heure court, un certain Stéphane qui faisait partie de la bande à pupus, qui a été dénoncé par un co-détenu à la police, le co-détenu disant il s'est vanté d'avoir tué Joseph Fontanet. Bon. Mais, alors, malheureusement, comme souvent dans ce genre d'histoire, Stéphane s'est suicidé.
Oui, il s'est suicidé. Oui, voilà. Mais l'hypothèse n'a jamais été retenue très sérieusement parce que les détenus aiment bien se vanter et les autres cafardent pour avoir des remises de peine, Et les expertises en Allemagne a déclaré que ça ne pouvait pas être cette arme-là qui avait tiré.
Je préfère votre hypothèse de la lessive.
Voilà. Donc toutes les hypothèses se sont effondrées les yeux. Alors moi, ça n'est qu'une hypothèse, mais vous savez, l'intime conviction, ça compte quand on a passé beaucoup de temps sur un sujet.
Mais écoutez, je pense que ce que vous avez dit n'est pas tombé dans l'oreille de sourd, hein, de toute façon. Je pense qu'on n'est pas tout seul là, et que certaines personnes ont dû écouter. Donc ça serait intéressant de voir ce que d'autres personnes connaissant bien le dossier vont peut-être penser à partir des révélations que vous nous avez faites ce soir. Je vous remercie beaucoup.
Ah, non, c'est moi.
Merci infiniment. Donc,
c'est moi, je...
Quand la politique tue, c'était votre livre d'il y a quelques années. Votre actualité, je le redis, c'est La mythologie au féminin, le livre qui vient de sortir aux éditions Guy Trédaniel. Mais là, on est dans un autre sujet, mais quand même un sujet très actuel, au bout duquel il y a le féminicide, le machisme et les... Voilà. Donc c'est un livre à mettre dans le domaine de la défense de la cause des femmes.
Voilà, absolument.
Hein, on
absolument,
peut dire ça comme ça. Voilà. Merci beaucoup, l'émission est terminée.
Merci à vous, Jacques.